la première victime de l'armée néocoloniale, du moins la soldatesque coloniale qui était composée de militaires venus de partout, pour ne pas avoir un attachement spécifique tribal à un soldat, on faisait venir les Tchadiens ou les autres qui pouvaient vous tuer sans état d'âme. Donc, la première victime, c'est a été une femme qui a été écrasée par un camion militaire à la sortie de la Réunion à Newbel. Donc, l'engagement des femmes a commencé dès le début de la lutte. Elles se sont mobilisées dans le parti, elles ont formé des gens, parce que la formation politique, étant entendu que les dirigeants de l'UPC ont été formés par Gaston Donna, un Français communiste, donc la formation politique est très importante dans les rangs de l'UPC, et dont les femmes sont formées, même en langue nationale. Et là, ça, il faut dire que l'Église a joué un rôle malgré elle, parce que l'Église tenait à alphabétiser les femmes dans leur langue nationale. Et donc, le parti en a profité pour former ces femmes politiquement dans leur langue. Donc, les femmes qui étaient à l'UPC étaient des femmes remarquablement formées. La preuve, c'est que quand la bataille juridique a été engagée au niveau de l'ONU, l'Union démocratique des femmes camerounaises, qui a été formée par des militantes UPCistes en 1954, est allée à l'ONU défendre l'idée de l'indépendance. Si on a aujourd'hui, on a eu après des maternelles qu'on appelait à l'époque jardins d'enfants, la protection maternelle et infantile, elle est venue du combat des femmes de l'UDFEC, l'Union démocratique des femmes camerounaises, qui était un organe annexe de l'UPC. Donc, 54, l'UDFEC est formée, donc militantes de l'UPC y sont comme des cadres. Elles vont même créer un journal qu'on appelle Femmes camerounaises avec K et U, et qui est un journal non seulement de formation politique, parce que ce journal traitera aussi bien de la loi cadre, des enjeux des élections de 56, etc. Donc ce journal est tenu par des femmes, dont Marthe Moumier qui en était l'éditorialiste. C'est pour dire qu'au niveau idéologique, les femmes étaient là. Au niveau du combat par les armes, elles étaient là. Il y a eu des lieux qui indiquent clairement que les femmes ont participé au combat. Les femmes étaient agents de liaison pour traverser les barrages. Elles se déguisaient un peu en pin-up. Et elles ont été des cadres pour l'organisation des femmes et la mobilisation des femmes dans la lutte. Et la sensibilisation des femmes sur les enjeux de la lutte de l'UPC, à savoir non seulement l'indépendance, mais un programme politique précis qui était la réunification de notre pays et ce qu'on appelle l'élévation du standard de vie, c'est-à-dire une meilleure répartition des richesses du pays. C'était ça les maîtres mots du programme de l'UPC. Et toutes les femmes, qu'elles soient analphabètes ou instruites, même dans les langues nationales, elles le savaient au bout des doigts. Toutes les femmes pouvaient rédiger des tracts, pouvaient écrire, pouvaient communiquer. Si vous allez aux archives de Aix-en-Provence ou les archives de la colonisation qui étaient à la rue Oudinot ont été transférées, vous allez voir dans le cas du Cameroun le nombre de femmes qui ont été convoquées à la police, qui ont été torturées, qui n'ont pas parlé, et vous allez voir toute une banque de photos et tout ce que les femmes ont pu faire. Je vous le dis parce que ma sœur est historienne et pour faire son mémoire de DEA, elle a déterré beaucoup de documents où j'ai pu lire le niveau élevé des femmes qui étaient à l'UPC, les cadres féminins qui ont contribué à la lutte. Mais l'histoire les a rendues invisibles, on ne parle pas d'elles. Il y avait Cécile T, qui avait une qui est morte récemment, mais qui était aussi une femme politique remarquable, Madame Gapet. Il y en a beaucoup d'autres, il y a Marie-Charles d'Espoir, il y en a beaucoup, il y a Marthe Wandier, Marthe Moumier, etc. Donc, les femmes ont joué pleinement leur rôle. Elles sont allées à l'ONU, et à l'époque, le représentant de la France à l'ONU s'appelait Kosciusko Morizet, certainement le grand-père de l'ancien ministre, qui lui était docteur en droit, mais pour vous dire que la formation politique était telle que Oum Niobé et ses camarades l'ont mis en difficulté. Les syndicats sont allés, ils l'ont mis en difficulté du point de vue de l'argumentation devant la 4e commission qui s'occupait des pays sous tutelle, parce que nous étions un pays sous tutelle. Et l'association Babimbi qui est allée là-bas, Soli Babimbi, qui a aussi défendu remarquablement l'idée de l'indépendance, et les femmes de l'UDFEC qui ont parlé au nom des femmes camerounaises. Donc, elles étaient sur tous les fronts. Il y en a qui sont en exil encore en France. Je ne sais pas si elles sont encore vivantes. Les hauts faits des femmes, les femmes ont souvent organisé la transmission des mots d'ordre. Par exemple, lorsque la direction prend un mot d'ordre pour les populations. Donc, les femmes ont organisé la propagande, l'agitation, en allant au marché, en donnant le mot d'ordre du jour, etc. Lorsque la guérilla est arrivée à Douala, parce que le combat s'est concentré ici à partir de la fin de l'année 59, il y a eu le soulèvement de New Bell le 26 décembre, où les chars d'assaut sont entrés à New Bell pour décimer la résistance. Ils n'ont pas pu, ils ont organisé autre chose. L'armée française a tué un nordiste et a dit aux nordistes que ce sont les Bamileke qui l'ont tué. On a donc organisé comme ça une lutte entre les Bamileke et les nordistes, où les nordistes sont sortis en grande tenue de guerre avec des coutelas, des flèches, etc. Et ils allaient devant les restaurants, ils tiraient. Quand on allait à l'école le matin, on voyait des gens qui étaient allés manger et qui avaient les nouilles qui sortaient de leur estomac, parfois le ventre sabré. Voilà. Donc, c'était une intox pour s'allier une partie de la population contre ces Bamileke qui étaient censés donc être les patrons de l'armée de libération, donc tant que Noé. Ensuite, donc les femmes diffusent les mots d'ordre au marché. Le marché s'appelait à l'école, à l'époque, le marché Lagos, etc. Elles vont organiser une marche le jour de l'indépendance pour dire que cette indépendance est fictive. Elles mettront leur habit avec le crabe et elles vont aller du quartier Komondo en chantant des chansons patriotiques en bassa et en français. Elles vont traverser tout New Bell pour aller au lieu où se faisaient les défilés, c'était les portiques, comme on disait. On a tiré sur elles. Elles disparaissaient dans le quartier. Elles se disaient, on reconstitue notre rang à tel endroit. Elles reconstituaient leur rang et elles arrivaient vraiment pour montrer aux Français qui étaient là, puisque le drapeau français devait descendre pour que le drapeau camerounais monte, et bien pour leur montrer que, messieurs, nous sommes encore en lutte. Même si elles chantaient que Oumyobé Ayébikaï, que Oumyobé est encore dans la forêt, un jour il va sortir, il était mort depuis 2 ans. Mais c'était un combat héroïque des femmes. Donc l'histoire, malheureusement, n'a pas encore été écrite sur les combats des femmes. Bon, il y a une camarade qui, à Paris, a fait un mémoire de DEA sur l'apport des femmes. Elle disait qu'elle va faire une thèse sur les femmes pour sortir ces invisibles de ce combat où on encense les leaders hommes, mais où on parle très peu des femmes qui ont fait des sacrifices énormes. Ce qui me désole, c'est que je ne peux pas quantifier ce que les femmes ont fait. Je sais qu'elles ont fait un travail remarquable qui a été reconnu dans les discours des dirigeants, qui a été reconnu par les notes que la police a faites à l'administration centrale pour leur dire, méfions-nous des femmes parce qu'elles sont un vecteur de la propagande communiste de l'UPC. Ou qu'elles sont manipulées parce qu'elles sont très efficaces, elles circulent dans les marchés et font des tas de choses. Donc voilà grosso modo l'apport des femmes. Elles ont donc été torturées de la même manière. J'ai l'exemple d'une camarade, Marie Thia d'Espoir, qui était agent de liaison. Quand on a vu ces photos de jeunes femmes, c'était une pin-up, mais alors les cils comment dire ça, maquillée, les yeux vraiment comme Nefertiti ou vraiment sapée et tout, le cheveu défrisé, bien coiffé, mais c'est elle qui transportait les armes et c'est elle qui transmettait l'argent. Donc cette dame, au début des années 60, a rendez-vous avec deux personnes pour leur remettre l'argent pour aller acheter les armes. Et elle a rendez-vous au rond-point à Daido, mais elle est chez son frère à New Bell. Elle dort donc la nuit. À un moment donné, elle se lève dans la nuit, elle va dans la chambre de son frère et elle lui dit, la maison est encerclée, ne bouge pas, ça doit être moi qu'on vient chercher. Il y a eu une trahison. Donc, dès qu'on frappe, elle ouvre, on lui dit, c'est vous une telle? Elle dit oui. Qu'est-ce que vous faites ici? Elle dit, je suis chez mon frère, je suis venue me promener. On l'embarque. Et quand on l'embarque, elle subit des tortures incroyables. Elle a bu son pipi pendant 15 jours. 15 jours, quand elle a soif, elle boit son pipi. Et donc, on l'amène donc, après des séances de torture, mais on l'amène au rond-point pour reconstituer la scène. Elle arrive, elle trouve deux hommes qui sont là, elle les connaît parfaitement bien. Les gars lui disent, camarades à vous, ils sont fatigués, torturés, ils ont des plaies. Elle dit, mais je ne vous connais pas, vous me parlez d'avouer quoi? Le blanc frappe, il dit, non, mais je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Moi, j'étais venue chez mon frère, elle a eu juste le temps de cacher la somme d'argent qu'elle avait, au point où ils ont fouillé toute la maison, ils n'ont pas trouvé cet argent. Parce que l'argent aurait pu indiquer que c'est vrai, elle venait donner l'argent pour l'achat des armes. Mais dès qu'elle a senti, et ça c'est une des qualités des clandestins, c'est qu'on ne dort jamais totalement la nuit. On a toujours un peu l'oreille dehors pour savoir si d'aventure on venait vous capturer la nuit. Parce que c'est ça que l'administration coloniale aimait, venir à 3h du matin, bousculer les gens, partir. Donc, elle cache cet argent et donc elle nie. Elle a droit à la balançoire, c'est-à-dire qu'on vous attache comme ça à une barre de fer. On tourne et de chaque côté, il y a des gens qui vous fouettent. Donc vous subissez les coups, vous êtes comme une broche, comme un poulet sur une broche, on vous tourne. Il y a un monsieur qui est préposé à ça et il y a deux gars de part et d'autre qui vous fouettent. Donc elle a subi ça. Elle n'a pas avoué, naturellement. Et au bout de 15 jours, un juge la convoque. Elle y va, encadrée par le gendarme. Le juge demande que les gendarmes sortent, que les militaires sortent. Et lui dit, voilà, il y a eu les directives du parti. Je vais te donner une liberté provisoire. Tu vas aller ce soir. On va venir te chercher à Bounamouan, tu vas aller là-bas à pied, tu fais attention. La pirogue va t'amener quelque part et puis on va t'amener jusqu'au Nigeria. Et au Nigeria, tu vas prendre la voiture, les camarades t'attendent à Accra. Et c'est comme ça que cette camarade est arrivée à Accra et qu'elle a été expédiée en Chine pour être soignée. Pour dire ceci que le mot d'ordre d'indépendance avait tellement pris que même les fonctionnaires, il y avait des fonctionnaires qui étaient profondément nationalistes. Par exemple, mon père était un fonctionnaire de l'administration coloniale, mais il a signé la pétition pour que Oum aille aux Nations Unies. Bon, les Français n'ont pas accepté ça. Il était militant de la CGT, mais il a fait en disant que, bon, moi je suis un nationaliste, même si je suis fonctionnaire, je ne suis pas militant de l'UPC, mais il est normal que Oum Niobe aille défendre les idéaux d'indépendance. Il a eu des demandes d'explication, parce qu'en plus, comme il était fonctionnaire et syndicaliste, on lui a adressé des demandes d'explication, est-ce que c'est un mouvement communiste, etc. Il a répondu, et comme il travaillait très bien, on lui a proposé la nationalité française. Il s'est dérobé et on a dit, bon, on va lui donner la Légion d'honneur parce qu'il travaille bien. S'il refuse la nationalité, ce n'est pas grave. Et on lui a donné la Légion d'honneur. Bon, pour dire quoi? Pour dire que tout ce combat de femmes, quand elles ont vu qu'il n'y avait plus de maquis, elles ont replié dans les organisations religieuses, que ce soit catholiques ou protestantes, où elles sont devenues de très, très grandes organisatrices. Parce que ayant l'habitude de l'organisation, ayant l'habitude de tenir des écritures, ayant l'habitude de rendre compte, elles se sont révélées des femmes très utiles. J'ai par exemple été à un séminaire en 84 de l'ensemble des églises protestantes du Cameroun et j'ai trouvé des femmes, dont une Bassa anglophone, qui étaient habillées en noir tout le temps. Et quand je leur ai demandé pourquoi elles étaient en noir, elles ont ri. Elles m'ont dit, oh, nous venons de très loin. Vous venez de très loin. Vous êtes dans le Ndongoura, à gauche, à droite. Même la femme du PCC. Il s'est avéré que ce sont des femmes qui étaient des dirigeantes du mouvement de libération et qui, une fois le mouvement fini, ont replié à l'église où elles ont organisé des femmes, elles ont apporté leur savoir-faire pour ça. J'ai même trouvé la sœur de Yana. Elle est bassa anglophone. Parce qu'elle parlait bassa couramment. Et quand il faut parler une langue européenne, elle parle bassa. Elle venait du PCC, de l'Organisation des femmes. Elle parle anglais. Et elle m'a dit qu'elle est partie en 56, où elle a quitté, elle fuyait une arrestation. Elle s'est donc réfugiée de l'autre côté, qui ne faisait pas partie du Cameroun. Le Cameroun occidental était sous influence anglaise. Donc beaucoup de ceux qui ont souffert de cette répression ont traversé. Et il y a beaucoup de gens de sa région qui sont devenus des anglophones. Il a de la famille anglophone qui se sont exilés parce que la réunification n'a eu lieu qu'en 61. Mais eux, ils sont partis au milieu des années 50, quand la répression chauffait. Voilà un peu comment les femmes se sont reconstituées. Mais à chaque période où il y a des arrestations, il y a toujours des femmes. En 76, par exemple, il y a plusieurs femmes qui ont été arrêtées. Certaines ont été libérées. Il y en a une qui a été arrêtée parce que quand on l'arrêtait, elle avait un carnet d'adresse et il y avait le nom de son fiancé qui était resté en exil. Elle a été sauvagement torturée. Au bout de 2 ans, elle était hémiplégique. Elle était traductrice. Elle avait fait l'école d'interprétariat et de traduction de Paris et gagnait bien sa vie. Elle a quitté son fiancé en lui disant « Je ne peux pas rester en exil parce que mon père a besoin de moi et j'aimerais m'occuper de mon père dans ses vieux jours. » Et il lui a dit « Je suis sûr qu'on va t'arrêter. » Elle lui a dit « Non, je ne pense pas. Moi, je ne suis pas mon coco priso, je m'en vais. » Et effectivement, elle a été arrêtée dès le premier coup de filet. Il y en a une autre qui a perdu tout espoir de maternité. Parce qu'elle était la compagne de Bélé Tobo, un camarade qui était un des dirigeants du mouvement clandestin en 76. Et donc, ils habitaient un immeuble. Quand la police politique est venue, après une trahison quelque part, quand elle a ouvert, on lui demande si c'est le domicile de son compagnon. Elle a dit non, c'est pas ici. Ils sont allés ailleurs. Mais elle n'a pas eu le temps de s'éclipser. Donc, ils sont allés au-dessus. On leur a dit, non, ce jeune homme, il habite bien là. Et donc, quand le patron de la police politique est arrivé, il a été impitoyable. Il l'a tabassée. Elle était en début de grossesse, des coups de pied au ventre, tout de suite le sang. Et elle a saigné comme ça en cellule. L'enfant est sorti en cellule sans soin. Cette femme vit, elle n'a jamais eu d'enfant. Et donc, à chaque fois, il y en a la vague de 86, il y a une camarade qui avait la cinquantaine, qui souffrait d'une hypertension sévère, qui a été sauvagement tabassée, et on ne lui donnait son comprimé que quand elle lâchait un nom. Heureusement pour cette camarade, elle a vécu en exil, elle était ouvrière, c'était une militante politique, et donc, à un moment donné, je crois qu'on a donné des enveloppes aux travailleurs immigrés qui voulaient rentrer au milieu des années 80. Et donc, elle a pris sa cagnotte, elle est rentrée, elle s'est installée dans son village. Et un camarade qui a été arrêté, qui a été torturé, a donné son nom. On prend donc cette camarade, quelques mois après son retour au Cameroun. Et les camarades vont se servir de son dossier médical pour mobiliser l'Ordre des médecins en France, qui, à la lecture de son dossier médical, disent que mais c'est pas possible. Et donc, ils vont faire pression sur Mitterrand, qui va faire pression sur la présidence de la République pour exiger que cette femme ne soit plus torturée. Elle avait 50 ans et qu'elle reçoive les soins appropriés. Donc, on viendra régulièrement la chercher en prison pour l'amener chez un médecin au moins deux fois par semaine. Et puis, il y a eu mon cas en 90, torturé aussi, tribunal militaire. Donc, à chaque période, il y a eu des femmes dans la lutte. Mais l'aura des femmes n'a pas été le même, parce que même les femmes qui sont allées à l'ONU, on n'en a pas parlé, l'UDFEC. Mais le combat était centré sur les hommes. Ce sont les hommes qui ont capitalisé dans l'histoire comme de grands résistants et pas les autres.